qu'est-ce qui touche dans une peinture? Ça, c'est une question difficile à laquelle je me garderai de répondre trop rapidement. En revanche, qu'est-ce qui fascine dans un tableau? Qu'est-ce qui fascine dans un tableau? Qu'est-ce qui fait que telle œuvre, plutôt que telle autre, fait qu'on s'arrête et qu'on ne peut pas s'en détacher? Ou que l'œuvre, comme disait Roger de Pine à la fin du 7e siècle, l'œuvre vous appelle, et qu'on est appelé par l'œuvre. En ce qui me concerne, parce qu'il n'y a bien sûr pas de règle générale, en ce qui me concerne, je dirais que c'est le sentiment que là, vraiment, dans cette œuvre-là, il y a quelque chose qui pense. Il y a quelque chose qui pense, et qui pense sans mots. Et moi, je suis quelqu'un qui parle. Je suis quelqu'un qui écrit. Ma pensée, c'est avec les mots qu'elle se cherche, qu'elle s'exprime, qu'elle se formule, qu'elle se transmet. Et un tableau de peinture ou une peinture en général, eh bien, elle pense et elle pense non verbalement. Et certaines peintures, pour moi, m'attirent, me fixent, m'arrêtent, me parlent, comme dit Roger de Pile. Elle a quelque chose à me dire, mais il se trouve qu'en fait, elle ne me dit rien. Et cette fascination-là, cette attente, cette mise en position d'attente de quelque chose qui fait que la peinture, le tableau ou le lieu de peinture m'arrête et me fixe.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Peu d'historiens de l'art nous permettent de percevoir intimement, mais précisément, cette émotion difficilement communicable qui nous saisit parfois devant une œuvre d'art. Daniel Arras savait admirablement poser des mots, comme des caresses, sur ce saisissement qui nous fige devant un tableau dans lequel, dès le premier regard, nous avons l'impression de nous engloutir. Comme si, en effet, l'œuvre nous appelait. Arras a su ainsi approcher le mystère Vermeer, ce silence habité qui nous parle sans mots. C'est d'ailleurs à lui que l'on pense, devant certaines toiles du peintre danois Wilhelm Hammershøi, qui, à la fin du XIXe siècle, à l'écart des bouleversements de la peinture de son temps, a peint obstinément, silencieusement, des intérieurs immobiles et mystérieux, gris, blanc et noir. Il y a bien eu une belle exposition à Orsay en 1997, mais Hammershøi demeure toujours à l'écart des grands engouements artistiques, comme si le peu de traces laissées par l'artiste, muet sur sa vie et ses motivations artistiques, bridait quelque peu la renommée éclatante que son talent mérite. L'exposition que nous offre le musée Jacquemart-André jusqu'au 22 juillet devrait déceler le regard d'un encore plus large public. Elle réunit 40 œuvres du maître scandinave, confrontées pour la première fois à des tableaux de peintres qui lui ont été proches et qui ont travaillé sur les mêmes thèmes que lui, ce qui nous permet de saisir immédiatement ce qui l'en distingue, ce génie singulier qui soulève en nous une émotion pure. Bonsoir Jean-Loup Champion.
Bonsoir.
Vous êtes co-commissaire de cette belle exposition à Hammershøi avec Pierre Curie, qui nous propose des toiles qui n'ont pas été vues à Paris lors de la rétrospective d'Orsay en 97, des toiles qui vous ont été prêtées par des collectionneurs. Il y en a peu, en fait, dans le monde de ces toiles, parce que Wilhelm Hammershøi, qui est mort à 51 ans, n'a pas peint énormément, il mettait beaucoup de temps.
Oui, en fait, on pense qu'il n'a pas peint plus de 400 tableaux. Le catalogue raisonné n'est pas encore fait, mais c'est à peu près cela. Donc il peignait en effet très lentement.
Et en plus, il n'a pas laissé, je disais, de traces. Souvent, les artistes aiment bien répondre aux questions, expliquer pourquoi leurs influences, pour comment ils peignent. Lui, il était, j'allais dire, presque rébarbatif pour ceux qui voulaient venir à lui, comme Rilke, par exemple, qui voulait désespérément avoir des informations pour écrire sur Hammershøi et qui s'est heurté à un mur. C'est étrange.
Oui, parce que Rilke a découvert... un tableau très célèbre d'Hammershøi, qui est le tableau de sa fiancée, de sa future femme Ida, qui était présenté à Berlin à ce moment-là, donc en 1891. C'est ce tableau d'ailleurs qui est venu après à Paris chez Durand-Ruel. Et Rilke a été fasciné par ce portrait, et donc il est allé immédiatement au Danemark pour rencontrer les collectionneurs, la famille d'Hammershøi, pour voir le maximum de tableaux. Et ensuite, il a rencontré le peintre, puisqu'il voulait vraiment écrire un livre sur lui. Et vu le peu de choses qu'il est arrivé à lui faire dire, il a renoncé à son projet, puisqu'Hammershøi ne voulait pas parler, d'une certaine manière.
Mais ce Wilhelm Hammershøi, il est connu évidemment dans les pays scandinaves, et c'est d'ailleurs intéressant de le replacer dans cette influence de la Scandinavie, parce qu'en fait, quand il naît, en 1864, il se passe quelque chose au Danemark. Le Danemark perd la Norvège. Et donc, il y a un repli sur soi. Et pour ceux qui s'étonnent de voir Hammershøi si peu influencé par les grands bouleversements de la peinture, par l'impressionnisme qu'il connaissait, il y avait même une école un peu impressionniste à Skagen au moment où il peignait, cet homme connaissait tout de l'art de son temps et il s'est tenu à distance, mais même à une distance presque sauvage. Sa mère lui avait dit au moment où il partait voyager, ne te laisse pas contaminer.
Oui, c'est très étrange, parce que d'abord, Hammershøi a été élevé, Copenhague était absolument le Paris de toutes les écoles du Nord, c'est-à-dire que tous les peintres allemands, comme Friedrich, mais norvégiens, suédois, tout le monde venait faire ses études au Danemark et à Copenhague. Donc l'Académie de Copenhague, c'est ce qu'on faisait de mieux. Et Hammershøi a suivi le cursus normal d'un artiste. Comme il était très doué, jeune, il a pris son dessin, ensuite il est entré à l'académie.
À 15 ans, ce qui est quand même jeune.
Ouais. Ensuite, il est allé dans une école plus avant-garde, dirigée par Kreuer, ce fameux peintre qui lui était très international. Donc en effet, il a eu l'éducation absolument parfaite, il était prêt en effet à découvrir le monde, ce qu'il a fait puisqu'il a beaucoup voyagé, mais il n'a jamais voulu être imprégné de quoi que ce soit d'autre. Et il s'en est d'une certaine manière vanté, c'est pas lui, mais c'est en effet sa femme qui a écrit à la mère d'Hammershøi en disant qu'il ne serait pas contaminé par les Français.
Et en même temps, quand on le replace dans cette époque-là, le fait que, à ce moment-là, son pays se replie sur lui-même et même fait profession de foi de retrouver ses valeurs. Alors il y a un mot, j'ai pas du tout un très bon accent danois, ça s'écrit H-Y-2-G-E.
Et Hugge.
Hugge, voilà. Le Hugge, c'est au fond ce qui fonde le plaisir de vivre entre soi, chez soi, à l'intérieur de sa maison. On peut dire que cette peinture a été, au fond, l'application artistique du mot d'ordre politique lancé à l'époque.
D'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en fait, comme je ne voulais pas refaire l'exposition d'Orsay, j'ai trouvé que pour connaître Hammershøi, la plupart des lettres ont été détruites, qui n'a jamais écrit sur sa peinture, qui ne s'est jamais exprimé, il fallait contextualiser, c'est-à-dire d'une manière très grande. En disant, pour connaître quelqu'un, il faut connaître son chez-soi, il faut connaître son pays. Et d'ailleurs, un des rares interviews qu'il a donné à l'époque, le journaliste a écrit « Entrer dans l'appartement de M. Hammershøi, c'est comme entrer dans un de ses tableaux ». Donc, je pense que c'était une manière, en effet, de chercher tout cela. Donc, comme vous l'avez très bien dit, en 64, le pays se rétrécit considérablement, d'autant plus qu'en 1804, il perd la Norvège. Et donc, en 1864, il perd les duchés de Schleswig et du Holstein, ce qui fait qu'il lui reste 20% de son territoire. Et en effet, ça veut dire qu'Hammershøi a été élevé, mais tous les artistes, tous les historiens, tout le monde, dans un pays replié sur soi, où tous les philosophes et les théoriciens leur disaient « Restez chez vous, regardez vos paysages, faites une sorte de nationalisme, si vous voulez ». Mais on ne peut pas dire que Hammershøi s'en soit servi ainsi, puisque lui a beaucoup voyagé. Mais en effet, le Hugge, qui est un mot norvégien du Moyen-Âge, qui veut dire réconfort, c'est d'une certaine manière, ce sont les Danois qui se le sont appropriés en 1864, en disant maintenant, on reste chez soi. Et comme vous savez, il y a très peu de lumière au Danemark 6 mois de l'année, puisque 6 mois de l'année, la nuit tombe à 3 heures de l'après-midi. On a essayé de faire une sorte de légende du bonheur d'être chez soi avec les bougies allumées et la lumière qui filtre des fenêtres. Mais le problème avec Hammershøi, c'est que Hammershøi ne nous transmet pas ce bonheur de vivre, justement. Ce sont son beau-frère et son ami et son frère, c'est pour ça que j'ai voulu les mettre dans l'exposition, qui, eux, font la même peinture. Ce sont des femmes de dos, dans des intérieurs, douillets, qui en effet transmettent ce bonheur de vivre. Chez Hammershøi, lui, il transmet plutôt une étrange inquiétude.
Effectivement, les peintures de William Hammershøi, essentiellement, sont des pièces dépouillées, dans des tons de gris, de brun, de noir. On y voit parfois de la lumière. Et effectivement, on pense très vite aux peintures hollandaises du XVIIe siècle. Et d'ailleurs, on a entendu Daniel Arras au début de cette émission, même si lui parle essentiellement de Vermeer, il y a des choses qui peuvent s'appliquer à la peinture de Wilhelm Hammershøi.
Vermeer peint des scènes d'intérieur. En ce sens, il est banal, hein, comme la peinture hollandaise du XVIIe siècle, c'est une peinture de scènes d'intérieur. Mais dans les scènes d'intérieur, Vermeer peint le dedans du dedans. Il peint pas seulement l'intérieur, mais il peint le dedans du dedans. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, il y a des fenêtres, souvent, chez Vermeer. Ces fenêtres sont ouvertes, mais vous ne verrez jamais l'extérieur. Elles sont ouvertes de telle sorte que il y a l'extérieur, mais on ne le verra jamais. On est dans le dedans. Hein, on est dans le dedans. Et dans le dedans du dedans, pourquoi? Parce qu'on a ces obstacles visuels au premier plan. C'est-à-dire qu'on est non seulement dans la maison, l'extérieur est exclu, il est évoqué, mais jamais visible, mais pour nous-mêmes, entre nous et le personnage qui est là, il y a un obstacle. C'est le dedans du dedans. Donc, la problématique ou la tension de Vermeer, à la différence de beaucoup de ses collègues, n'est pas entre le monde privé et le monde public, l'intérieur et l'extérieur, mais à l'intérieur de l'intérieur, hein, à l'intérieur du monde privé, celui de l'intimité et du privé, hein, l'intime dans le privé. Et deuxième élément, deuxième surprise qui me fascinait également, c'est que cette intimité, ça est entre liée, cette intimité, eh bien, elle est présentée à la fois comme extrêmement proche, tout près de nous, et absolument inatteignable.
Jean-Loup Champion, c'est dans ces derniers mots surtout qu'on peut assimiler la peinture, la démarche artistique d'Hammershøi à celle de Vermeer. Ce sont des scènes intimes, mais qui nous tiennent à distance.
Oui, absolument. Une chose que je regrette beaucoup, c'est que Daniel Arras ne soit plus ici. J'aurais beaucoup aimé parler d'Hammershøi avec lui, bien entendu. Ce que fait Hammershøi, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il ne peint pas ce qu'il a sous les yeux. Il peint ce qu'il projette sur sa peinture. C'est-à-dire que il travaille toujours dans son appartement. Il a changé d'appartement. Son appartement, c'est son atelier. Mais dans son atelier, il soustrait les trois quarts des choses, parce que son appartement était comme tous les appartements danois de l'époque, avec pas mal de meubles, avec des tableaux. Et on voit que lui, il enlève tout ce qu'il y a au mur pour ne laisser que deux ou trois objets, en général pour former une sorte de grille géométrique. Et il m'a souvent fait penser à ce qu'a pu faire Mondrian quand il est passé de ces fameux moulins, quand il est arrivé peu à peu à l'abstraction. Et je pense que leurs démarches sont assez parallèles et sont à peu près contemporaines d'ailleurs.
Alors, dans cette exposition magnifique de Jacques Marandré, dont vous êtes le co-commissaire avec Pierre Curie, Jean-Loup Champion, on voit que ce sont souvent des tableaux de peu d'envergure, même si ils nous attirent, ce sont des tableaux de petit format, sauf alors ce tableau très extraordinaire qui ouvre l'exposition, 5 portraits, ce sont les amis proches et même les parents du peintre. Et il les peint, alors c'est un thème qu'on a souvent retrouvé dans la peinture, l'artiste peint ses amis dans l'atelier d'artiste, et là, c'est complètement différent, parce que ce sont des hommes d'abord plus grands que nature, l'atmosphère, elle est plutôt d'une veillée funèbre que de libation aimable après une journée de travail. C'est un tableau qui nous attire, qui nous dérange, et d'ailleurs à l'époque, il a fait scandale ce tableau. Pourquoi ?
Oui, c'est un tableau très important, et à vrai dire, quand on m'a demandé de faire ces expositions, j'ai commencé par ce tableau, je voulais absolument avoir ce tableau.
Il se trouve à Stockholm, en temps ordinaire.
Il se trouve à Stockholm. Pour Hammershøi, c'était son chef-d'œuvre. Il voulait absolument que le Musée national l'achète, ce qu'il n'a pas fait. Et c'est un collectionneur suédois qui l'a acheté, qui a une très grande collection et qui, après, a légué sa maison et sa collection. C'est à Stockholm, ça s'appelle la Tilska Collection. C'est un endroit merveilleux au bord de la mer qu'il faut absolument visiter. Et ce grand tableau, donc, qui s'appelle 5 portraits, représente, en effet, c'est toujours une chose classique, comme chez Hammershøi. Au départ, il ne s'est pas révolutionnaire, il traite toujours des thèmes classiques, mais après, il les dévie d'une certaine manière. Et là, c'est encore le cas, puisqu'on pourrait penser à Fantin-Latour, à Courbet, à tous les amis dans dans les intérieurs d'artistes. Simplement, au lieu d'être un peu débraillés et artistes comme les Français, ce sont des personnages, on a vraiment l'impression qu'ils sortent d'un enterrement, d'autant plus qu'ils sont autour d'une table qui ressemble étrangement à un cercueil recouvert d'une nappe blanche. Et pour ceux qui s'en souviennent, en 1987, il y a eu un film qui a eu un Oscar d'ailleurs, d'un cinéaste danois,
Gabriel Axel.
Gabriel Axel.
Peter Gabriel, il chante, je crois.
Vous avez raison. Gabriel Axel, qui s'appelle Le Festin de Babette. Et il y a une scène célèbre où tous ces personnages en noir sont autour de la table blanche avec des bougies. Et je me suis aperçu, parce que j'ai lu plusieurs entretiens de Gabriel Axel, qui s'est en effet inspiré de ce tableau pour reconstituer cette ambiance. Donc c'est un tableau qui a beaucoup touché, y compris dans le XXe siècle. Mais ce qui s'est passé à l'époque, c'est donc il y a 5 portraits qui sont ses amis les plus proches, qui sont tous des artistes, y compris son jeune frère Zena Mercheuil. Et personne ne regarde le peintre, c'est-à-dire le spectateur. Ils ont tous le regard tourné à gauche ou à droite. C'est-à-dire que Zena Mercheuil, dans les portraits de groupe, personne n'est en relation avec personne. C'est-à-dire chacun est toujours dans son monde intérieur. Ça, c'est vrai pour tous les tableaux d'Amer Scheu. Et le personnage de droite, qui s'appelle Karl Holze, qui est donc un de ses amis d'université, qui lui aussi faisait des intérieurs, qui sont d'ailleurs dans l'exposition, a les pieds étendus au premier plan sur un tabouret. Et ses pieds prennent une dimension absolument gigantesque qui a beaucoup frappé et choqué le public.
Alors Jean-Loup Champion, c'est vrai, quand on est devant ces tableaux silencieux, dans lequel les rares personnages n'interagissent pas, ne nous regardent pas, le spectateur, forcément, comme disait Daniel Arras, est appelé, et appelé à quoi ? Appelé à rêver. Or, c'est difficile, parce qu'il ne nous a pas laissé de piste, donc on est obligé d'interpréter. Alors, il faut éviter de faire de la psychologie devant ces tableaux, puisque lui-même, le peintre, ne voulait pas. Et pourtant, il y a des écrivains qui, eux, devant les toiles d'Amer Scheu, ces toiles silencieuses, ont une furieuse envie d'écrire. C'était le cas de Philippe Delerme. On l'écoute en parler en 2001.
Le tableau dont vous parlez représente une jeune femme de dos qui tient un plat, qui a le regard penché vers un coin de pièce dont on ne sait pas exactement s'il évoque quelque chose de précis. Il y a son ombre aussi. Il y a juste à côté d'elle une soupière qui semble là plutôt faite pour décorer que pour servir. Il y a un tableau qui reste très abstrait puisqu'on n'en voit qu'un coin. Et souvent d'ailleurs, il y a comme ça des moulures, des coffrages, des lignes de fuite, enfin des espèces d'horizons où l'imaginaire peut trouver à s'exprimer. J'adore partir d'une image pour écrire. Et je trouve que les images d'Amer Scheu en particulier, avec une espèce de sensualité assez secrète, parce que donc la sensualité, elle est en fait souvent dans la nuque du personnage qui est donc à peine dénudé, par ailleurs qui porte une robe qui souvent a l'air d'une espèce de robe tablier, en fait, plutôt vraiment pour l'intérieur. Et en même temps, elle semble assez sensuelle, ces femmes un peu mystérieuses dont on ne sait pas trop ce qu'elles sont en fait, et qui semblent aussi un peu mélancoliques, je crois.
Jean-Loup Champion, vous voyez, on est inévitablement amené à projeter notre propre rêverie, nos propres fantasmes dans ces peintures silencieuses. Est-ce qu'on a tort ? On n'en sait rien, au fond. Est-ce que lui-même voulait y mettre quelque chose ? On ne sait pas.
Je pense qu'il est pris à son propre piège, parce qu'il ne voulait absolument aucune psychologie et aucune narration. C'est-à-dire que Philippe Delerme a vu en effet un tableau où on voit que cette femme de dos tient quelque chose, mais en général, dans la plupart des tableaux, on ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle tourne le dos, elle a en effet cette robe noire avec ce tablier blanc, c'est toujours sa femme Ida qui pose, mais on ne sait pas ce qui se passe. Et je pense que c'est à cause de ça, puisqu'il ne veut pas qu'il y ait de la psychologie, quand les personnages sont de face, leurs yeux sont dans le vague. Donc il ne peut pas y avoir de connexion entre ce qu'on voit et ce qu'on est. Donc forcément, nous, on est obligés de projeter notre propre univers intérieur sur ces intérieurs vides. Et je crois que c'est pour ça que ça nous fascine autant aujourd'hui.
Vagabonde sur France Inter.
Ce qui m'incite à choisir un motif, ce sont les lignes. Ce que je me plais à appeler le fond architectural d'un tableau. Et puis il y a la lumière, bien sûr. Elle est très importante aussi, c'est évident. Mais je crois que ce sont les lignes qui comptent le plus pour moi. La couleur a aussi son importance. Je ne suis pas indifférent aux couleurs du motif, car je fais tout pour qu'il soit harmonieux. Mais quand je choisis un motif, je pense avant tout aux lignes. Wilhelm Hammershøi, 1907.
Jean-Louis Champion, c'est un petit extrait lu de la seule et unique interview que Wilhelm Hammershøi a donnée à un journal, le Closen, à Copenhague en 1907. Et on voit bien qu'il insiste, et on le sent en déambulant dans cette exposition du musée Jacques Marandré, il insiste sur les lignes, sur le fait que l'architecture intérieure de ces tableaux était pour lui peut-être à un moment la chose la plus importante. Et on s'en rend compte dans les salles où sont exposés ces tableaux vides de personnages, dans lesquels il a travaillé sur les lignes de fuite, les fenêtres, les portes, les moulures et la lumière. Et en fait, là, on pense vraiment à quelqu'un comme Hopper, par exemple, aussi, avec le travail de la lumière qui tombe sur des parquets. Il a cherché à rendre compte de l'espace avec la lumière.
Oui, c'est d'autant plus vrai qu'il a quelque chose en plus avec Hopper, c'est l'inquiétude aussi, parce que les personnages de peur transmettent aussi quelque chose qui n'est absolument pas confortable. Donc il y a ces deux choses, et je dois dire que ça me paraît tout à fait légitime de les rapprocher à travers le temps, parce qu'ils distillent le même genre de choses. Évidemment, le paysage, la lumière, le côté américain de peur absolue n'a rien à voir avec le côté nordique d'Amersheuil.
Oui, mais pour celui qui regarde le tableau, il y a une émotion du même ordre.
Absolument.
Et il y a une inquiétude. Donc, on est obligé aussi de projeter ça. Est-ce que, au fond, on ne sait rien de lui, donc évidemment, on a tort ou raison à chaque fois qu'on interprète ces tableaux. Mais par exemple, il a fait quelques paysages. Alors, on dit toujours, Amersheuil, c'est le peintre de l'intérieur, des pièces vides, mais il y a dans une salle quatre paysages signés Amersheuil, dont deux absolument extraordinaires. Et on se rend compte que, au fond, il traite le paysage comme il traite les pièces de son appartement. Pas du tout de vivant.
Exactement. Parce qu'en fait, il ne s'éloignait pas beaucoup de Copenhague pour faire ses paysages. Et on sait que ces endroits sont très, très peuplés d'animaux, de gens, de maisons. Et on voit bien qu'il les traite comme son appartement. C'est-à-dire qu'il enlève tout. Il ne reste que deux lignes d'horizon, deux ou trois détails, assez peu, et comme si tout était enveloppé dans une certaine brume. En effet, ça devient une abstraction, ou bien on peut dire que c'est son paysage imaginaire. Et on a cette même impression devant ces paysages. C'est pas qu'on ait l'impression qu'il manque quelque chose, on a au contraire une envie de plénitude en face de ces paysages, mais qui sont très très mystérieux à cause de ce traitement par soustraction de ce qu'il y avait avant le tableau.
Et quand, par hasard, il y a la mer dans ce paysage, il l'évacue dans un coin du tableau. On pourrait quasiment ne pas voir la mer, tellement elle est réduite à un tout petit carré, petit triangle.
Oui, ça vous parlait de ce que je pense être le plus beau paysage qu'il ait jamais peint, qui est aussi à la Tilska Collection à Stockholm, qui est une chose absolument extraordinaire. Et en effet, la mer, c'est comme un petit bout d'abstraction. C'est un triangle bleu dans un coin. Et il y a juste cette ligne d'horizon tout à fait extraordinaire.
Oui, mais d'ailleurs, beaucoup parlent de son avancée vers l'abstraction. Évidemment, il franchira jamais cette frontière. Il est du 19e siècle, il est mort en 1916. Mais cette abstraction, beaucoup d'artistes, quand ils regardent les toiles de Wilhelm Amersheuil, y pensent notamment. Je vais vous faire écouter un petit extrait de l'émission de Jean Dev, bien sûr. En 1998, sur France Culture, il recevait le peintre Vincent Biulès.
Ce désir de rendre la composition de plus en plus précise et rigoureuse se fait sentir au fur et à mesure de l'évolution de l'œuvre. Et alors c'est là où on se rend compte que c'est une préoccupation justement très nordique, parce qu'il y a une référence à Vermeer, mais il y a aussi une préoccupation qui est partagée par tous les peintres du nord de l'Europe dans ce sens. Mais il y a presque quelque chose aussi qui rejoint les préoccupations de Mondrian, sans la couleur, mais par l'organisation des surfaces à base de formes géométriques. Alors là, il y a toute une série d'intérieurs, donc avec une femme vue de dos. Est-ce une servante? Certaines d'entre elles portent un tablier. Cette maison à la fois impeccablement propre, cirée et vide, avec ses portes battantes, cette absence. Et chaque tableau s'ouvre faussement sur l'extérieur. Tout est clos, les portes s'ouvrent, mais s'ouvrent sur des mondes fermés, comme si c'était des espèces de boîtes conduisant à une autre boîte de plus en plus étroite, de plus en plus fermée et de moins en moins éclairée. Là, je pense qu'il y a quelque chose de très très angoissant. Et ensuite, il y a sans arrêt des références à la forme du carré et du rectangle que l'on retrouve sur le plan du tableau, dans les fonds. Là, c'est tout à fait visible, mettons la porte qui est vue absolument de front, ouverte ou fermée. Et ensuite, les plans de la table qui répercutent sur le mode perspectif cette perception de surface carrée ou rectangulaire que nous percevons dans le fond. Nous les repérons sur le sol de la pièce et sur les tables qui sont situées dans l'espace. Et dans certains tableaux, il y a même la présence du plafond ou de la corniche qui viennent accentuer encore l'impression d'enfermement.
Jean-Loup Champion, c'est vrai que cette comparaison avec l'évolution du peintre Mondrian qui passe de la représentation de la nature à cette abstraction très colorée, évidemment, là c'est pas le cas d'Amersheuil, c'est une comparaison tout à fait pertinente. Est-ce que ce côté moderne que l'on distingue nous aujourd'hui dans cette peinture de la fin du 19e, est-ce que c'est ça qui a expliqué le fait que ses contemporains ont été assez dérangés au fond par cette peinture, qui a eu même des années pendant lesquelles Amersheuil a été quasiment oublié? Est-ce que c'est ça aussi qui pourrait expliquer que lorsqu'il l'expose à Paris, soit dans les salons, soit chez Durand-Ruel, est-ce que, justement, au moment où, à Paris, on est en recherche de la modernité, c'est très étrange qu'on n'ait pas perçu à ce moment-là ce qu'il y avait en germe chez Hammershøi?
Alors, je pense qu'on l'a perçu, parce qu'il a donc exposé à deux expositions universelles, celle de 1889 et celle de 1900. Il a été absolument remarqué par les critiques français. Non, il n'a pas été inaperçu. Mais il faut penser aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que cette fin du 19e siècle, il y a eu trois expositions universelles qui se sont tenues à Paris, 78, 89, 1900. C'est-à-dire, les peintres du monde entier sont venus voir les autres à Paris. Tout le monde a montré ses tableaux. Donc, en fait, on avait le choix devant tout. Et je dirais simplement, contrairement à ce que disait Bioulès tout à l'heure, je ne crois pas qu'il y ait la moindre évolution dans le style d'Hammershøi, parce que j'ai vu que dans les tableaux qu'il a peints à 17 ans, il avait exactement choisi déjà tous ses motifs et sa manière de peindre, et en fait, il n'en a jamais bougé. C'est quelqu'un qui a, comment dirais-je, concentré et découvert son propre intérieur très jeune, il n'en a jamais bougé. Ce qui le rend tout à fait extraordinaire. Dans une époque où, au contraire, tous les autres artistes, Picasso le premier, était une éponge pour attraper tout ce qu'il y avait tout autour. Et lui n'a jamais voulu, je pense que c'est vraiment de la volonté, ça, puisque le seul peintre qu'il ait jamais admiré, qui lui est très proche, c'est Whistler. Il a même essayé de le rencontrer à Londres, il n'a jamais réussi. Il a même fait un tableau, un portrait de sa mère, qui est un hommage direct au portrait que Whistler a fait de sa propre mère, qui est à Orsay aujourd'hui.
Et qui est dans l'exposition de Jacques Marandré, qui est très très émouvant effectivement. Vous avez mis la photo du tableau de Whistler en regard de ce tableau. Alors il y a une autre anomalie dans le parcours d'Hammershøi. Vous dites vous-même, Jean-Loup Champion, que dès l'âge de 17 ans, il peignait, il avait déjà ce qu'il voulait rendre sur la toile. Et puis il y a, dans une des dernières salles de l'exposition, des nus qu'il a fait. Alors, il les a fait sans doute parce qu'il était dans une école où il fallait le faire. Son dénu, c'est très différent. Et en même temps, on y retrouve cette mise à distance, ce regard froid et ces mêmes teintes de gris, de bleu. On dirait des corps morts.
Absolument. On a eu la chance d'avoir un deuil. En fait, il n'a fait que deux nus la même année, en 1910. Qui sont de la même taille, qui sont grandeur nature. Et on a réussi à en avoir un, celui de la David's Collection, et j'ai pu avoir l'esquisse pour les deux qu'on voit à côté, et les trois autres nus sont des nus qu'il a fait quand il était encore à l'école, qui ont une certaine sensualité. Mais ce nu très très impressionnant, c'est cette femme qui est de face. On a l'impression qu'elle est dans une chambre d'hôpital, ou pire, qu'elle est à la morgue, les corps, la peau est violette. C'est à la fois, il y a des choses très réalistes, comme le pubis, la chevelure. Comme d'habitude, comme toujours, les modèles ne regardent pas le spectateur, on regarde par terre. Et il y a une étrangeté absolue qui, elle, annonce 20 ans avant Otto Dix et 60 ans avant Lucian Freud. On a exactement cette même impression d'inquiétude, encore une fois. Enfin, c'est comme si le corps féminin n'existait pas. Enfin, en tout cas, la sensualité a totalement disparu. Elle est gommée. Je pense que c'est une volonté absolue du peintre.
Mais c'est assez étrange, Jean-Loup Champion, justement, d'avoir cet écart de date entre ce qu'il faisait quand il était jeune à l'école et on mettait les modèles, il devait le faire, et à la fin de sa vie où il a vraiment peint ce qu'il voulait peindre, c'est-à-dire ses lignes architecturales, la lumière et quelques femmes de dos. Et là, tout d'un coup, pourquoi, sur la fin de sa vie de peintre, il peint des nus qui ne sont pas, ça ne représente pas ce qu'il aime faire, ses modèles? C'est très étrange et on n'a absolument aucun indice pour comprendre.
On ne sait pas, on ne connaît pas l'identité de cette femme, c'est la même qui a posé sans doute un modèle professionnel. Vous imaginez que dans un pays puritain, à l'époque, on ne faisait pas poser sa propre épouse pour un nu comme cela. Et il les a fait donc en 1910, donc 6 ans avant sa mort. Il n'en a jamais fait plus. Je crois que c'est qu'une sorte d'expérimentation, de la même façon quand il a fait les 5 portraits dont nous parlions tout à l'heure. Ce sont des expérimentations. C'est-à-dire qu'il était, ça nous montre à nous qu'il était capable d'être un peintre totalement révolutionnaire, mais sans doute ne voulait-il pas l'être.
Alors, il y a aussi quelque chose qu'on remarque évidemment dans l'exposition dont vous êtes co-commissaire, Jean-Louis Champion, c'est justement le tableau que les musées nationaux ont acheté, qui est le tableau de Holse, qui représente, enfin qui était exposé en même temps que les tableaux d'Hammershøi à Paris au Salon, et en fait, les musées nationaux français n'ont pas vu le talent si particulier d'Hammershøi, ils ont choisi le tableau plus souriant, où il y a de la lumière, un bouquet de fleurs, une jeune femme avec une natte blonde. Et quand on les voit aujourd'hui l'un à côté de l'autre, on se dit qu'effectivement, il y a quand même une grande différence entre le talent réel d'Holse et le grand, grand génie d'Hammershøi.
Mais est-ce qu'on le voyait à l'époque? Parce qu'en 1900, c'est l'exposition universelle de 1900, Hammershøi présente 11 tableaux, Ilsted en présente 2, l'État français en achète un, il achète aussi un autre tableau danois, mais il y a eu beaucoup d'articles dans la presse qui disaient que tout le monde avait été très très impressionné par une sorte d'école danoise de l'intérieur qui leur plaisait beaucoup. Et quand on relit la presse de l'époque, et même les théoriciens français, comme Faucillon et les autres, on s'aperçoit qu'ils les mettaient ensemble, qu'ils ne faisaient pas tant que cela la différence. Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, de faire une vraie différence entre les artistes contemporains? Est-ce qu'il ne faut pas que le temps ensuite s'ajoute? Et il est vrai que le tableau d'Ilsted, qui nous paraît maintenant anecdotique, était sans doute beaucoup plus charmant pour les grands jurys. Et puis en plus, on sait bien que l'État, c'est pas la première fois qu'il s'est trompé. Qu'en général, quand les institutions achètent du vivant des artistes, ils se trompent souvent. C'est une règle quasi absolue.
Eh bien voilà, en tout cas, c'est une exposition à voir et à revoir même, qui se déroule jusqu'au 22 juillet au musée Jacques Marandré à Paris. Et puis, il y a un très beau catalogue avec beaucoup de textes aussi qui nous expliquent, qui tentent de nous expliquer le silence et le mystère de ce peintre, Wilhelm Hammershøi. Il me reste à vous remercier, Jean-Louis Champion.
Merci beaucoup, Catherine.
Bonsoir. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.